Chapitre 2. Interlude. De pierre étaient leurs eaux, de la pierre aux veines scintillantes des montagnes. Leur chair était faite des sels étincelants de la terre, mais leur cœur était fait du cœur d'hommes sages. Ils vinrent de loin, ces hommes, par un long et pénible chemin. Ils n'hésitèrent pas à se dépouiller d'une vie dont ils s'étaient lassés. Ils achevèrent leurs jours et entamèrent l'éternité. Ils rejetèrent la chair et endossèrent la pierre. Ils laissèrent tomber leurs armes et s'élevèrent sur des ailes nouvelles, les anciens. Le roi me convoqua enfin, et j'allai chez lui. Fidèle à la promesse que je m'étais faite, je ne m'étais plus rendu de mon propre chef à ses appartements depuis l'après-midi fatidique. J'étais encore rongé de rancœur quant aux dispositions qu'il avait prises avec le duc Brondy à propos de célérité et moi. Mais on ne refuse pas une convocation de son roi, quelque ressentiment qu'on en ait. Il me fit mander un matin d'automne. Il y avait au moins 2 mois que je n'étais pas paru devant le roi subtil. J'avais faim de ne pas voir les regards blessés que me jetait le fou quand je le rencontrais, et esquivé les questions de vérité qui me demandaient de temps en temps pourquoi je ne me présentais pas chez Subtil. C'était assez facile. Murphès gardait toujours sa porte tel un serpent, la pierre de l'âtre, et la mauvaise santé du roi n'était un secret pour personne. Nul ne pouvait plus accéder à ses appartements avant midi. Aussi, cette convocation matinale laissait-elle présager une question d'importance. J'avais cru avoir ma matinée libre. Une tempête d'automne anormalement précoce et violente nous pilonnait depuis 2 jours. Le vent ne décolérait pas, tandis que la pluie qui tombait à verse nous assurait que celui qui voyageait sur un navire ouvert occupait tout son temps à écoper. J'avais passé la soirée de la veille à la taverne avec l'équipage du Rurisque, à saluer la tempête et à souhaiter aux pirates qu'ils en sentent toute l'étreinte. J'étais remonté au château pour m'écrouler dans mon lit, abruti de boisson, certain de pouvoir faire la grasse matinée. Mais un page résolu avait martelé ma porte jusqu'à ce que le sommeil m'abandonne, puis m'avait délivré la convocation du roi. Je fis ma toilette, me rasai, lissai mes cheveux en arrière, les nouai en queue et enfilai des vêtements propres, tout en me contraignant à ne rien trahir de la rancœur qui brasillait en moi. Une fois certain d'être maître de moi-même, je quittai ma chambre et me présentai à la porte du roi. Je m'attendais à ce que Murphès me renvoie d'un air sarcastique, mais ce matin-là, il m'ouvrit promptement lorsque je frappais. Le regard toujours désapprobateur, il m'introduisit néanmoins aussitôt chez le roi. Subtil était assis dans un fauteuil garni de coussins devant sa cheminée. Malgré moi, mon cœur se serra en voyant la ruine qu'il était devenu. Sa peau était translucide et parcheminée, ses doigts décharnés. Ses traits s'étaient avachis, plissés, là où naguère la chair l'étendait. Ses yeux sombres étaient enfoncés dans leurs orbites, et il tenait ses mains serrées sur ses genoux en un geste que je connaissais bien. C'était ainsi que je les tenais pour dissimuler les tremblements qui me saisissaient de temps en temps. Sur une petite table à côté de lui était posé un brûloir dont s'élevait de la fumée. Les vapeurs créaient déjà une brume bleutée au niveau des poutres du plafond. Le fou était vautré au pied du roi, l'air désolé.
« Fitz Chevalerie est ici, votre majesté, » dit Murphès.
Le roi tressaillit comme si quelqu'un l'avait piqué, puis tourna les yeux vers moi. J'allais me placer devant lui.
« Fitz Chevalerie, »
dit le roi. Il n'y avait aucune force derrière ces mots, aucune présence. Le ressentiment restait fort en moi, mais il ne suffisait pas à noyer ma peine à le voir dans cet état. C'était toujours mon souverain. Mon roi, je suis venu comme vous l'avez ordonné, dis-je avec raideur. J'essayais de me raccrocher à la froideur qui imprégnait jusque-là mes pensées. Il me regarda d'un air fatigué, puis il détourna la tête et toussa contre son épaule.
C'est ce que je vois. C'est bien.
Il me dévisagea un moment, puis prit une grande inspiration, qui chuchota dans ses poumons.
Un messager est arrivé hier soir, dépêché par le duc Brondi de Béarn. Il apportait les rapports des moissons et d'autres missives semblables, la plupart pour Royal. Mais célérité, la fille de Brondi a également envoyé ce manuscrit. Il est pour toi.
Il me tendit l'objet. Un petit rouleau fermé par un ruban jaune et scellé par un cachet de cire verte. Bien à contre-cœur, je m'avançai pour le saisir.
Le messager de Brondi repart pour Béarn cet après-midi. Tu auras certainement eu le temps de rédiger une réponse convenable.
Ce n'était pas une prière. Il fut pris d'une nouvelle quinte de toux. Les émotions conflictuelles dont j'étais la proie me brûlaient l'estomac. Puis-je ? Demandai-je, et comme le roi ne protestait pas, je brisai le cachet et défis le ruban. Je déroulai le parchemin et en découvris un second à l'intérieur. Je jetai un coup d'œil au premier. Une lettre de célérité à l'écriture nette et ferme. J'étudiai brièvement le deuxième, puis levai les yeux et croisai le regard de Subtil posé sur moi. Je le soutins sans rien manifester. Elle m'envoie, avec ses salutations, une copie d'un manuscrit qu'elle a trouvé dans les bibliothèques de Castellonde, ou plus précisément, une copie des parties encore lisibles. D'après l'étui, elle pense qu'il concerne les anciens. Elle a remarqué l'intérêt que je leur portais lors de ma visite chez son père. À première vue, selon moi, le texte traite plutôt de philosophie, ou de poésie peut-être. Je rendis les rouleaux à Subtil. Au bout d'un moment, il les prit. Il déroula le premier, et le tint devant lui à bout de bras. Puis, il plissa le front, eut une expression mécontente, et reposa le parchemin sur ses genoux.
« Parfois, le matin, j'ai la vue brouillée, » dit-il.
Il réenroula les manuscrits l'un dans l'autre, avec minutie, comme s'il s'agissait d'une tâche difficile.
« Tu lui enverras une lettre océan de remerciements. »
« Oui, mon roi, » répondis-je d'un ton toujours raide. Je saisis les rouleaux tendus. Je restai immobile devant lui, sous son regard qui ne me voyait pas. Je finis par demander. « Me donnez-vous congé, mon roi ?»«
Non. »
Une nouvelle quinte le secoua, plus violemment, puis il inspira longuement, avec un bruit sifflant.
« Je ne te donne pas congé. Si j'avais dû le faire, ça aurait été il y a bien longtemps. Je t'aurais abandonné dans quelque village perdu, où j'aurais fait en sorte que tu n'atteignes jamais l'âge d'homme. Non, Fitz Chevalerie, je ne t'ai pas donné congé. »
L'ombre de ce qu'il était autrefois perçait de nouveau dans sa voix.
« Il y a quelques années, j'ai passé un marché avec toi. Tu en as tenu les termes, et très bien. Je sais comment tu me sers, même lorsque tu n'estimes pas utile de te présenter pour m'en informer personnellement. Je sais comment tu me sers, même quand tu débordes de colère contre moi. Je ne pourrais guère demander davantage que ce que tu m'as déjà donné. »
Une quinte le saisit encore une fois, brusquement, une quinte de toux sèche qui le convulsa. Lorsqu'il retrouva l'usage de la parole, ce n'est pas à moi qu'il s'adressa.
« Vous, une coupe de vin tiède, s'il te plaît, et prie, Murfès, de te fournir les épices pour le relever. »
L'intéressé se dressa aussitôt, mais je ne lus nulle bonne volonté sur son visage. Au contraire, en passant derrière le fauteuil du roi, il me décocha un regard assassin. D'un petit geste de la main, Subtil m'indiqua de patienter. Il se frotta les yeux, puis crispa les doigts sur ses genoux.
« Je ne cherche qu'à tenir les termes du marché de mon côté, » reprit-il. « Je t'ai promis de subvenir à tes besoins. Mais je veux faire davantage. Je veux te marier à une dame de qualité. Je veux te... Ah, merci.
Le fou était de retour avec le vin. J'observai qu'il remplissait la coupe à moitié, et le roi la prit à deux mains. Je captai le parfum d'herbe inconnue mêlé à l'arôme du vin. Le bord de la coupe cliqueta deux fois contre les dents de Subtil avant qu'il l'immobilise des lèvres. Puis, il but une longue gorgée. Ensuite, il resta un moment sans bouger, les yeux clos, comme s'il tendait l'oreille. Lorsqu'il les rouvrit, il parut un instant égaré en me voyant. Mais il se reprit.
« Je veux que tu aies un titre et un domaine à régir. »
Il leva la coupe, but à nouveau, puis la tint entre ses mains émaciées pour les réchauffer tout en m'examinant de l'œil.
« J'aimerais te rappeler la chance que tu as d'être considéré comme un parti digne de sa fille par Prondi. Ta naissance ne le rebute pas. Cette hérité apportera un titre et de la terre. Et votre union me fournit l'occasion de te faire le même cadeau. Je ne veux que ton bien. Est-ce si difficile à comprendre ? »
La question me laissait le loisir de répondre. J'inspirais, puis m'efforçais de le convaincre. Mon roi, je sais que vous n'avez que de bonnes dispositions envers moi, et je me rends parfaitement compte de l'honneur que me fait le duc Brondi. Dame Célérité est une belle jeune femme que tout homme serait heureux d'épouser. Mais ce n'est pas la dame de mon choix.
Subtil se rembrunit. Tu parles comme vérité,
fit-il d'un ton irrité.
Ou comme ton père. Je crois qu'ils ont été leur obstination avec le lait de leur mère.
Il termina sa coupe, puis se radossa et secoua la tête.
Vous, encore du vin, je te prie. Je connais les rumeurs,
reprit-il d'une voix sourde, après que le fou eut emporté sa coupe.
Royal me les rapporte et me les murmure à l'oreille, comme une fille de cuisine, comme si elles avaient de l'importance. L'importance de la poule qui glousse. Ou du chien qui aboie,
ouais. Le fou remplissait docilement la coupe, la répugnance inscrite dans toute l'attitude de son corps mince. Murfès apparut comme par magie, ajouta de l'herbe à fumer dans le brûloir, souffla soigneusement sur un minuscule brandon jusqu'à ce que le petit tas se mette à brasiller. Puis, il s'éclipsa comme il était venu. Subtil se pencha de façon à ce que les volutes de fumée effleurent son visage, inspira. Tout sauta, puis inspira de nouveau la fumée, après quoi il se radossa dans son fauteuil. Le fou, silencieux, tenait le vin demandé.
« Royal, te prétends amoureux d'une chambrière que tu poursuivrais sans cesse de tes assiduités. Bah, les hommes sont tous jeunes un jour, et les femmes aussi. »
Il prit la coupe et but. Debout devant lui, je me mordais l'intérieur de la joue en m'efforçant de garder une expression impassible. Perfidement, mes mains commencèrent à trembler, alors que les exercices physiques les plus violents ne déclenchaient plus chez moi la moindre réaction. J'avais envie de me croiser les bras pour calmer leur agitation, mais je les maintins le long de mon corps, en essayant de ne pas froisser le petit manuscrit que je tenais. Le roi Subtil abaissa la coupe, la posa sur la table, à côté de lui, et poussa un profond soupir. Ses doigts sans force se déplièrent sur ses genoux, tandis que sa tête allait s'appuyer contre les coussins du fauteuil.
« Fitz-chevalerie, » dit-il.
L'esprit engourdi, j'attendis sans bouger qu'il continue. Je vis ses paupières devenir lourdes, puis se fermer. Il les entr'ouvrit, et sa tête branla légèrement quand il parla.
« Tu as la bouche de Constance quand tu es en colère, »
dit-il. Ses yeux se fermèrent à nouveau.
« Je ne veux que ton bien, »
marmonna-t-il. Au bout de quelques instants, un ronflement s'échappa de ses lèvres amollies. Je ne bougeais toujours pas. Le regard posé sur lui. Mon roi. Quand je détournai enfin les yeux, je vis le seul spectacle capable de me plonger dans un trouble encore plus grand. Le fou, inconsolable, pelotonné aux pieds de Subtil, les genoux contre la poitrine. Il me regardait d'un air furieux, les lèvres réduites à une simple ligne, et des larmes limpides perlaient à ses yeux sans couleur. Je me sauvais. Dans ma chambre, je me mis à faire les 100 pas devant ma cheminée, tant les sentiments qui s'agitaient en moi me consumaient. Je m'imposai le calme, m'assis, et pris une plume et du papier. Je rédigeai un mot bref et poli de remerciement à la fille du duc Bondy, le roulai soigneusement et le cachetai. Je me levai, rajustai ma chemise, me lissai les cheveux, puis jetai la lettre dans le feu. Je me rassis, repris mes instruments d'écriture, et j'écrivis une lettre à Célérité, la timide jeune fille qui avait badiné avec moi à table et m'avait accompagné sur les falaises, dans le vent, pour attendre un adversaire qui n'était pas venu. Je la remerciai pour le manuscrit, et puis je lui racontai mon été. L'aviron a manœuvré sur le rurisque jour après jour, ma maladresse à l'épée qui avait fait de la hache mon arme. Je lui narrai notre première bataille sans lui faire grâce des détails, et lui avouai la nausée que j'en avais ressentie par la suite. J'évoquai les instants où j'étais resté pétrifié de terreur sur mon banc, tandis qu'un pirate rouge nous attaquait, mais je passais sous silence le navire blanc. Je conclus en lui confiant que de temps en temps, j'étais encore saisi de tremblements, séquelles de ma longue maladie dans les montagnes. Je relus soigneusement mes missives, et enfin, convaincu de m'être dépeint comme un rameur parmi d'autres, un lourdeau, un lâche et un infirme, je la roulai, et la liai avec le même ruban jaune dont elle s'était servie, mais ne la cachetai pas. La Lise qui voulait. Secrètement, j'espérais que le duc Brondy prendrait connaissance de ma lettre avant sa fille et qu'il lui interdirait de mentionner à nouveau mon nom. Quand je frappai à nouveau chez le roi Subtil, Murfès m'ouvrit avec son expression habituelle de désapprobation. Il prit la lettre comme s'il s'agissait d'un objet peu ragoûtant et me referma la porte au nez. En remontant dans ma chambre, je songeais à la combinaison de 3 poisons que je pourrais employer sur lui si l'occasion m'en était donnée. C'était moins compliqué que de penser à mon roi. Je me jetai sur mon lit. J'aurais voulu qu'il fasse nuit et que je puisse sans risque aller chez Molly, mais les secrets que je lui cachais me revinrent soudain, et le plaisir anticipé de la revoir m'échappa. Je bondis de mon lit pour ouvrir violemment les volets à la tempête, mais même le temps m'avait dupé. Une grande tache de ciel bleu avait troué le couvercle gris et laissé passer un ray de soleil délavé. Un banc de nuages noirs qui montait en bouillonnant au-dessus de la mer annonçait la fin à brève échéance de ce répit. Mais pour le moment, le vent et la pluie avaient cessé. Il y avait même comme de la tiédeur dans l'air. Œil de Nuit me parla aussitôt.
« Tout est trop mouillé pour chasser. Le moindre brin d'herbe est trempé. D'ailleurs, il fait plein jour. Il n'y a que les hommes qui soient assez bêtes pour chasser en plein jour. »
Fainéant de cabot, le rabrouai-je. Je savais qu'il était roulé en boule, le museau dans la queue au fond de son antre. Je perçus la chaude satiété de son ventre plein.
« Ce soir, peut-être, »
proposa-t-il, et il se rendormit. Je ramenai mon esprit et pris mon manteau. Mes sentiments ne m'incitaient pas à passer la journée entre des murs. Je quittai le château et me dirigeai vers Bourg-de-Castelserre. En moi, la colère suscitée par la décision que Subtil avait prise à ma place le disputait à la consternation devant son état d'affaiblissement. Je marchais d'un pas vif, en essayant d'échapper aux mains tremblantes du roi, à son sommeil drogué. Maudit Murfès. Il m'avait volé mon roi, et mon roi m'avait volé ma vie. Je renonçais à réfléchir davantage. Des gouttes d'eau et des feuilles au bord jauni tombaient des arbres sur mon passage. Des oiseaux célébraient à gazouillis clairs et joyeux l'arrêt inattendu de la pluie. Le soleil brillait de plus en plus fort, tout étincelait d'humidité, et de riches senteurs s'élevaient de la terre. Malgré mon trouble, la beauté du jour m'émut.
Les averses torrentielles avaient lavé la ville, et je me retrouvais sur le marché au milieu d'une foule empressée. Partout, on se dépêchait de faire des emplettes, de revenir chez soi, avant de se faire tremper par une reprise de la tempête. L'agitation et le brouhaha bon enfant étaient aux antipodes de mon humeur noire, et c'est d'un œil revêche que je parcourais le marché lorsque j'aperçus une cape et un capuchon rouge vif. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Au château, Molly portait le bleu des domestiques, mais pour aller au marché, elle revêtait toujours sa vieille cape rouge. Patience l'avait sans doute envoyée faire des courses en profitant du répit que nous accordait le ciel. Je l'observais sans me faire voir pendant qu'elle marchandait pied à pied le prix de quelques paquets de thé de calcède. Lorsqu'elle faisait nom de la tête, la fierté de son menton me remplissait de bonheur. Une soudaine inspiration me vint. J'avais ma paye de rameur en poche. Je m'en servis pour acheter 4 pommes douces, une bouteille de vin et un peu de viande poivrée. J'acquis aussi un sac à bandoulière pour transporter mes emplettes et une épaisse couverture de laine, une couverture rouge. Il me fallut user de tout le savoir-faire qu'Imbre m'avait enseigné pour accomplir mes achats sans perdre Molly de vue et sans me faire voir. Et j'eus encore plus de mal à la suivre discrètement lorsqu'elle se rendit chez la marchande de mode acheter du ruban de soie, puis quand elle reprit la route de Castelserre. Profitant de certains virages à l'ombre des arbres, je la rattrapai. Elle tressaillit alors que, m'étant approchée à pas de loup par derrière, je la soulevai brusquement et la fis tournoyer dans mes bras. Je la reposai à terre et l'embrassai fougueusement. J'ignore pourquoi je trouvais différent de l'embrasser à l'extérieur et sous le soleil éclatant, mais ce que je sais, c'est que tous mes ennuis s'évanouirent soudain. Je m'inclinai profondément devant elle. Madame consentirait-elle à partager une brève collation avec moi ?
« Oh, il ne faut pas !»
répondit-elle, mais son œil pétillait.
« On va nous voir !»
Avec des mimiques exagérées, je scrutai les alentours, puis la pris par le bras et l'entraînai à l'écart de la route. Le sous-bois n'était guère broussailleux. Aussi, l'emmenai-je d'un pas alerte sous les arbres dégoûtants. Nous franchîmes une grosse branche tombée et un tapis de cerfalier trempé qui s'accrochait à nos mollets pour parvenir au bord de la falaise. Au-dessus du murmure grondant de l'océan. Tels des enfants, nous empruntâmes des cheminées de pierre pour descendre jusqu'à une petite plage de sable. Des morceaux de bois flottés étaient entassés pêle-mêle dans ce recoin de la baie. Un surplomb de la falaise avait protégé de la pluie une petite surface de sable et de schiste qui illuminait un rayon de soleil. L'astre brillait à présent en dispensant une chaleur étonnante. Molly me prit le pique-nique et la couverture des mains et m'ordonna de rassembler du bois, après quoi elle s'employa et réussit à faire brûler les branches humides. Le sel qui les imprégnait colorait les flammes de vert et de bleu, mais le feu dégageait assez de chaleur pour nous permettre d'enlever cape et capuche. Qu'il était bon d'être assis aux côtés de Molly et de la regarder à la clarté du ciel, avec le soleil qui allumait des reflets dans ses cheveux et le vent qui lui rosissait les joues. Qu'il était bon d'éclater de rire ensemble et de mêler nos voix aux cris des mouettes sans crainte d'éveiller quiconque. Nous bûmes le vin à la bouteille et mangeâmes avec les doigts. Puis nous descendîmes au bord de l'eau pour nous laver les mains. Nous passâmes un petit moment à traîner au milieu des rochers et des branches mortes à la recherche de trésors rejetés par la mer. Je me sentais davantage moi-même que jamais depuis mon retour des montagnes et je retrouvais en Molly le garçon manqué prêt à toutes les folies de mon enfance. Alors que je la pourchassais, sa tresse se défit et ses cheveux volèrent sur son visage. Elle glissa en tentant de m'échapper et tomba dans une flaque. Nous revînmes à la couverture où elle ôta ses chaussures et ses bas pour les faire sécher devant le feu. Elle s'étendit sur la couverture et s'étira. Je lui proposai soudain de nous déshabiller. Molly se montra réticente. « Il y a autant de cailloux que de sable sous la couverture. Je n'ai pas envie de rentrer pleine de bleu dans le dos. » Je me penchai sur elle pour l'embrasser. « Est-ce que je n'en vaux pas la peine ?» demandai-je d'un ton cajoleur.
« Toi ? Sûrement pas !»
Elle me repoussa brusquement et je m'étalai les 4 fers en l'air. Elle se jeta hardiment sur moi. « Mais moi, oui !» L'étincelle farouche que je vis dans ses yeux lorsqu'elle me regarda me coupa le souffle. Après qu'elle se fût impitoyablement appropriée ma personne, je m'aperçus qu'elle avait eu raison.
Il y avait bel et bien des cailloux, et elle en valait la peine. Jamais je n'avais rien vu d'aussi spectaculaire que le bleu du ciel au travers de ses cheveux, qui tombaient en cascade au-dessus de moi. Ensuite, elle resta étendue plus qu'à demi sur moi, et nous somnolâmes dans l'air frais de la mer. Enfin, elle se redressa, toute frissonnante, pour enfiler ses vêtements. Sans plaisir, je la regardai relâcher son corsage. L'obscurité et la piètre lumière des bougies m'en avaient toujours trop dissimulé. Elle surprit mon regard troublé, me tira la langue, puis redevint sérieuse. Ma queue de cheval s'était défaite et elle ramena mes cheveux autour de mon visage, puis me cacha le front d'un pli de sa cape rouge. Elle secoua la tête. « Tu aurais fait une fille drôlement moche !» Je grognais. « Déjà que je ne vaux pas grand-chose comme garçon. » Elle parut vexée. « Tu n'es pas mal du tout. » Elle passa d'un air songeur un doigt sur la musculature de ma poitrine. L'autre jour, à la cour des Lavandières, certaines disaient que, depuis Burick, tu étais ce que les écuries avaient connu de mieux. Ça doit tenir à tes cheveux. Ils sont beaucoup moins grossiers que ceux de la plupart des hommes de serre. Elle s'en entortilla une boucle autour d'un doigt.
Burick,
fis-je en grognant de rechef. Tu ne vas pas me dire que les femmes le trouvent attirant? Elle leva les sourcils. Et pourquoi pas? Il est très bien fait de sa personne, il est propre et bien élevé par-dessus le marché. Il a de bonnes dents, et de ses yeux. Il est impressionnant avec sa mauvaise humeur, mais j'en connais plus d'une qui serait prête à essayer de l'égayer. Les Lavandières étaient toutes d'accord pour dire que si jamais il se retrouvait entre leurs draps, elles ne seraient pas pressées de l'enchasser.
Mais il y a peu de chances que ça arrive, observai-je.
En effet, répondit-elle, songeuse.
Tout le monde était d'accord là-dessus aussi. Une seule a prétendu l'avoir eu, et elle a reconnu qu'il était sous-perdu ce jour-là.
C'était pendant une fête du printemps, je crois. Molly me jeta un coup d'œil, puis éclata de rire en voyant mon expression incrédule. « Voilà ce qu'elle a dit, » poursuivit-elle d'un air taquin. « À vivre au milieu des étalons, il connaît tous leurs trucs. J'ai gardé la marque de ses dents sur mes épaules toute une semaine. »«
C'est impossible, » m'exclamai-je. Les oreilles me brûlaient de honte pour Burick. Jamais il ne maltraiterait une femme, aussi sous soit-il.
Idiot. Molly secoua la tête et se mit à refaire sa tresse à geste adroit. Personne n'a dit qu'elle avait été maltraitée. Et, avec un petit regard timide, ni qu'elle n'avait pas aimé ça.
Je n'y crois toujours pas, dis-je.
Burick. Et la femme avait aimé ça.
Est-ce qu'il a vraiment une petite cicatrice ici, en forme de croissant de lune? Elle posa sa main en haut de ma cuisse et me considéra les cils baissés.
J'ouvris la bouche, puis la refermai.
Enfin, les femmes parlent de ce genre de sujet entre elles?
C'était pas croyable.
Dans la cour des Lavandières, on ne bavarde guère d'autre chose, me confia Molly d'un ton serein.
Je me mordis la langue, mais la curiosité l'emporta.
Que disent-elles de Pogne?
Lorsque nous travaillons ensemble aux écuries, ces histoires de femmes me laissaient toujours pantois.
Il a des yeux et des cils très jolis, mais que pour le reste, il aurait intérêt à se laver, et plusieurs fois.
Je m'exclaffai joyeusement et pris note de la lui resservir la prochaine fois qu'il fanfaronnerait devant moi.
Et royal?
Royal? Elle me regarda avec un sourire rêveur, puis éclata de rire en me voyant froncer les sourcils.
Nous ne parlons point des princes, mon cher. Certaines propriétés sont gardées.
Je la fis rouler à côté de moi et l'embrassai. Elle se colla contre moi, et nous restâmes ainsi étendus sous le dôme bleu du ciel. La paix de l'esprit qui me fuyait depuis si longtemps m'emplissait à présent. Rien, je le savais, ne pourrait plus nous séparer, ni les projets des rois, ni les caprices du sort. L'heure me sembla propice pour exposer à Molly mes contrariétés avec subtil et célérité. Chaude contre moi, elle ne dit mot pendant que je lui racontais la stupidité du plan qu'avait imaginé le roi et ma rancœur de me retrouver de son fait dans une position aussi embarrassante. Ma propre bêtise ne m'a paru qu'en sentant une larme tiède tomber puis rouler sur mon cou.
« Molly ? » fis-je, surpris, en me redressant pour la regarder.
« Qu'y a-t-il ? »
« Qu'y a-t-il ? »
répéta-t-elle d'une voix qui montait rapidement vers les aigus. Elle prit une inspiration hoquetante.
Allongée tout tranquillement près de moi, tu m'apprends que tu es promis à une autre, et tu me demandes ce qu'il y a?
La seule à qui je sois promis, c'est toi, répondis-je avec fermeté. Ce n'est pas aussi simple, Fitz-Chevalerie.
Ses grands yeux étaient graves.
Que feras-tu quand le roi te dira de lui faire la cour?
Si j'arrêtais de prendre des bains. J'avais pensé la faire rire, mais au contraire, elle s'écarta de moi et me considéra avec des yeux où je lus tout le malheur du monde.
Il n'y a rien à faire. C'est sans espoir.
Comme pour confirmer ses paroles, le ciel s'obscurcit soudain et le vent se leva. Molly se dressa soudain, saisit sa cape et la secoua pour en faire tomber le sable.
Je vais me faire tremper. Il y a des heures que je devrais être au château.
Elle parlait d'un ton prosaïque, comme si elle n'avait nul autre souci.
Molly, il faudrait me tuer pour m'empêcher de te rejoindre, déclarai-je avec colère.
Elle récupéra ses emplettes.
Fitz, on dirait un gosse, dit-elle calmement. Un gosse borné.
Avec le bruit d'une poignée de gravier qu'on jette par terre, les premières gouttes commencèrent à tomber en créant de petits cratères dans le sable, et bientôt, des rideaux de pluie s'abattirent sur la mer. Les dernières paroles de Molly m'avaient laissé quoi? Rien n'aurait pu me faire plus mal que ce qu'elle venait de dire. Je pris la couverture rouge et l'agitai à mon tour. Molly serra sa capuche autour de son visage pour se protéger du vent.
Mieux vaut qu'on ne nous voie pas ensemble, observa-t-elle.
Elle s'approcha de moi, se dressa sur la pointe des pieds pour m'embrasser à l'angle de la mâchoire. J'étais incapable de savoir ce qui me rendait le plus furieux. Que le roi subtil m'ait mis dans cette situation impossible ou que Molly s'y laisse prendre. Je ne lui rendis pas son baiser. Sans rien dire, elle s'éloigna d'un pas pressé, escalada avec légèreté la cheminée rocheuse et disparut. Tout bonheur avait fui mon après-midi. Un moment parfait comme un coquillage lustré gisait à présent en miettes sous mes pieds. Malheureux comme les pierres, je rentrais chez moi au milieu des rafales de vent et de la pluie battante. Je n'avais pas refait ma queue de cheval, et mes cheveux me fouettaient le visage en mèches mouillées. La couverture détrempée sentait comme seule peut sentir la laine, et dégoulinait en saignures rouges sur mes mains. Je montai dans ma chambre, me séchai, puis me délassai l'esprit en préparant minutieusement le poison parfait pour Murfès, un poison qui lui convulserait les entrailles avant de l'achever. Une fois la poudre moulue fin, je la déposai dans une papillote en papier, puis restai à la contempler. Un moment, je songeai à l'absorber, mais finalement, je pris du filet une aiguille afin de fabriquer une poche cousue à l'intérieur de ma manche pour transporter le poison. M'en servirais-je un jour? À cette question, je me sentis plus lâche que jamais. Je ne descendis pas dîner. Je ne montai pas chez Molly. J'ouvris les volets et laissai la tempête inonder le sol de ma chambre. Je laissai s'éteindre le feu dans l'âtre et n'allumai pas une seule bougie. L'heure semblait à ce genre de geste. Quand Ambre m'ouvrit le passage, je ne répondis pas à son invitation. Assis au pied de mon lit, je regardais la pluie. Au bout d'un moment, j'entendis un pas hésitant dans l'escalier. Ambre apparut dans ma chambre plongée dans la pénombre, tel un spectre. Il me jeta un regard noir, puis s'approcha de la fenêtre et referma violemment les volets. Tout en les verrouillant, il me demanda d'un ton furieux.
« Tu te rends compte du courant d'air que ça fait chez moi ?»
Comme je ne répondais pas, il leva le nez en l'air et renifla. Il avait tout du loup.
« Tu as utilisé de la crève-feuille » s'enquit-il soudain.
Il vint se placer devant moi.
« Fitz, tu n'as pas fait de bêtises, n'est-ce pas ?»«
Des bêtises? Moi ?» J'eus un rire étranglé. Ambre se pencha pour me regarder sous le nez.
« Monte chez moi !»
dit-il d'un ton presque affectueux. Il me prit le bras, et je le suivis. La chambre gaie, le feu crépitant, un saladier plein de fruits d'automne bien mûrs, tout ce décor était tellement à l'opposé de ce que je ressentais, que j'avais envie de tout casser. Mais je me contentais de demander. « Y a-t-il quelque chose de pire que d'en vouloir à ce qu'on aime ?» Il ne répondit pas tout de suite, puis...
Voir mourir quelqu'un qu'on aime, et en ressentir de la colère, mais sans savoir où la diriger, C'est pire, je crois. »
Je me laissai tomber sur une chaise, les jambes tendues devant moi.
Subtil se drogue comme royal, à la fumée et à l'allègre feuille. Et elle sait ce qu'il y a dans son vin. Ce matin à Agen, il a commencé à trembler. Alors il a bu du vin trituré, pris une grande bouffée de fumée, et il s'est endormi sous mon nez. Après m'avoir répété que je devais courtiser Célérité avant de l'épouser pour mon propre bien. Les mots avaient jailli sans que je puisse me maîtriser. J'étais certain qu'Imbre était déjà au courant de tout ce que je lui racontais. Je braquai mon regard sur lui. « J'aime Molly », lui déclarai-je sans embâge. « J'ai dit à Subtil que j'en aime une autre, mais il exige que je m'unisse à Célérité. Il veut savoir pourquoi je ne comprends pas qu'il ne veut que mon bien. Mais lui, pourquoi ne comprend-il pas que je veuille épouser qui j'aime ?» Imbre parut réfléchir.
« En as-tu discuté avec Vérité ?»«
À quoi bon ? Il n'a même pas été capable d'empêcher qu'on le marie à une femme qu'il ne désirait pas. »
J'eus l'impression de trahir Kétriken par ses paroles, mais je les savais vraies.
« Veux-tu du vin ?»
me demanda Imbre d'un ton posé.
« Ça te calmerait peut-être ?»«
Non. » Il leva les sourcils. « Non, merci. » Après avoir vu Subtil se calmer avec du vin ce matin, je ne terminai pas ma phrase. Est-ce qu'il a seulement été jeune ?
Autrefois, il a été très jeune.
Imbre s'autorisa un petit sourire.
Peut-être se souvient-il que ce sont ses parents qui avaient choisi Constance. Il l'a courtisée à contre-cœur et l'a épousée sans plaisir. Il a fallu qu'elle meure pour qu'il se rende compte de la profondeur de son amour pour elle. Désir, en revanche, il l'a choisi lui-même dans une crise de passion qui l'a consumée.
Il s'interrompit.
« Mais je ne veux pas dire du mal des disparus. »«
Ce n'est pas la même chose. »«
Comment ça ?»«
Je ne suis pas le prochain roi. Qui j'épouse n'affecte que moi. »«
Si cela pouvait être aussi simple, » murmura Imbre.
« Crois-tu qu'il te soit possible de refuser la cour de Célérité sans faire affront à Brondi ?
Alors que les six duchés ont besoin de tous les liens qui font leur unité ?»
Je suis persuadé de pouvoir la détourner de moi.
Et comment ? En te conduisant comme une brute et en humiliant Subtil ?
J'avais l'impression d'être en cage. J'essayais d'imaginer des solutions, mais ne découvris en moi qu'une seule réponse. Je n'épouserai personne d'autre que Molly. Je me sentis mieux rien que d'avoir prononcé ces mots tout haut. Je croisai le regard d'Imbre. Il secoua la tête.
Alors ? « Tu n'épouseras personne, » fit-il.
« Peut-être. Peut-être ne serons-nous jamais mariés devant la loi, mais nous aurons notre vie ensemble. »«
Et beaucoup de petits bâtards. »
Je me dressai d'un bond, les poings serrés sans que je l'eusse voulu.
« Ne dites pas ça !»
fis-je d'un ton d'avertissement. Je me détournai pour contempler les flammes.
« Moi, je ne le dirai pas, mais tous les autres, si !»
Il soupira.
Fitz, Fitz, Fitz.
Il s'approcha de moi par derrière et posa ses mains sur mes épaules. Très, très doucement, il dit.
Il vaudrait peut-être mieux que tu renonces à elle.
Son contact et sa douceur avaient fait fondre ma colère. Je me cachai le visage dans les mains.
Je ne peux pas. J'ai besoin d'elle.
Et Molly, de quoi a-t-elle besoin ?
D'une petite chandellerie avec des ruches dans l'arrière-cour, d'enfants, d'un mari légitime. J'accusai Imbre.
C'est pour Subtil que vous faites ça, pour m'obliger à faire ce qu'il veut.
Ses mains quittèrent mes épaules. Je l'entendis s'éloigner, verser du vin dans une coupe, une seule. Il revint avec son vin et s'assit dans son fauteuil devant l'âtre. Excusez-moi. Il me regarda.
« Un jour, Fitz Chevalerie, » dit-il, « ces mots-là ne suffiront plus. Parfois, il est plus facile de retirer un poignard du corps d'un homme que de lui demander d'oublier les paroles qu'on vient de prononcer, même sous le coup de la colère. »
« Je regrette. »«
Moi aussi, »
répondit-il, laconique. Au bout d'un moment, je demandai d'un ton humble. « Pourquoi vouliez-vous me voir ce soir ?» Il soupira.
« Des Forgisés, au sud-ouest de Castelserre. »
Je me sentis mal. « Je croyais ne plus avoir à faire ça, » murmurai-je. « Quand Vérité m'a placé à bord d'un navire pour artiser, il a dit que peut-être... »«
Ça ne vient pas de Vérité. On a rapporté leur présence à Subtil et il veut qu'on s'en débarrasse. Vérité est déjà débordée. Nous ne tenons pas à le déranger avec de nouveaux ennuis en ce moment. »
Ma tête retomba entre mes mains. « N'y a-t-il personne d'autre qui puisse s'en charger ?» demandai-je, implorant.
« Seul toi et moi sommes formés à ce travail. »
« Je ne parlais pas de vous, » répondis-je d'un ton las. « Vous n'exécutez plus ce genre de tâches, je suppose. »«
Ah oui !»
Je levai les yeux et lus de la colère dans les siens.
« Blanc bec outrecuidant, qui, à ton avis, les a maintenus à distance de Castelserre tout l'été, pendant que tu étais à bord du Rurisque ? Croyais-tu que, parce que tu souhaitais couper à une mission, la nécessité de l'accomplir disparaissait comme par magie ?»
La honte me submergea comme jamais. Je détournai le regard de son expression furieuse. « Oh, Humbre, excusez-moi.
Tu t'excuses d'y avoir coupé ?» ou de m'avoir cru incapable de m'en débrouiller.
Des deux, de tout. Je rendis soudain les armes. Par pitié, Humbre, si je dois me faire détester d'une autre personne que j'aime, je ne le supporterai pas. Je levai les yeux et les braquai sur lui jusqu'à ce qu'il soit forcé de me regarder. Il se gratta la barbe.
L'été s'est fait long pour toi comme pour moi. Prie, elle, de nous envoyer des tempêtes qui chasseront les pirates rouges pour toujours.
Nous restâmes un moment silencieux.
Parfois, observa Humbre, il serait plus facile de mourir pour son roi que de lui donner sa vie.
J'acquiesçai de la tête. Le reste de la nuit fut consacré à la préparation des poisons dont j'aurais besoin afin de recommencer à tuer pour mon roi.